appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André du Mouvement au Katanga Oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Présent à la session extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU, ouverte le mardi dernier à New York, Monseigneur Outembi, président de la CENCO, affirme que le Conseil de sécurité a salué ce qui est déjà fait dans l'accord du 31 décembre, mais il est également au courant de la deuxième phase de discussion sur l'arrangement particulier. Le Conseil se montre disposé en effet à pouvoir donner sa contribution pour la mise en œuvre de l'accord. Une certaine opinion estime que cette contribution doit être essentiellement centrée sur la pression aux politiques pour décanter la crise actuelle. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 4969 ou encore au 081 890 6380 pour votre intervention en direct. Entre-temps, Nico Kalamba et Jean-Claude Kiala, voilà, constituent l'équipe technique de cette émission supervisée par Martin Sebujagwe. Une émission qui vous êtes coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci à vous tous pour vos messages déposés sur notre page Facebook. Kevin Ikoka, vous nous avez appelé. Isaac Bamporiki, et également Alain Bolojoa, Timothée Mukini, Aimé Mbala à Kinshasa et Jules Kapepela de Bounia qui se demandent pourquoi les conseils de sécurité se limitent seulement à reconnaître l'accord de Saint-Sylvestre sans mettre de pression sur la majorité qui, selon lui, multiplie les techniques politiciennes pour que l'accord ne soit pas appliqué. Timothée Mukini nous écoute à Kananga et pense que la position du conseil de sécurité est salutaire. Mais ce qui va bloquer cette position, c'est la mauvaise foi du pouvoir qui multiplie des prétextes dans le but de ne pas aboutir à la signature de l'arrangement particulier. Et même Mbala Kinshasa se réjouit de la décision prise par la communauté internationale. Cependant, il pense que cette communauté internationale doit multiplier des pressions sur les acteurs politiques de signer l'arrangement particulier. Il propose que dans la future résolution, les rôles de la MONUSCO soient clairement établis dans le processus électoral. Isaac Bamporiki pense qu'en réalité, ceux qui s'accordent accrochent au pouvoir en Afrique sont motivés par le gain facile qu'ils y tirent. Voilà pourquoi la meilleure façon pour les conseils de sécurité de l'ONU de contribuer à résoudre la crise en RDC en particulier et en Afrique en général, c'est d'être dissuasif à l'égard des hommes politiques africains. Les pays membres du conseil de sécurité étant les principaux fournisseurs de l'aide doivent procéder au gel de ces fonds. Cela poussera nos politiques à être sérieux. Tout en saluant l'intérêt qu'accorde le conseil de sécurité sur la question de la RD Congo, Alain Bolojoa est estime qu'il serait imprudent d'imposer une démarche prédéfinie au risque de reporter la crise et non de la résoudre. Le danger est loin d'être la non-tenue des élections, mais plutôt la contestation des résultats de celles-ci. Alain Évariste pense que la pression du Conseil de sécurité n'est pas la voie pour la mise en œuvre de l'accord. Il est important d'envisager d'autres mécanismes diplomatiques probants pour la mise en œuvre de l'accord. Enfin, Kevin Ikoka, depuis Mbandaka, dit ceci, des pressions politiques. Oui, il n'y a que ça qui peut contraindre les parties prenantes à respecter l'accord. Les pressions doivent aller non seulement à l'endroit de l'AMP, mais à toutes les parties prenantes, même la société civile, l'opposition, puisqu'on ne peut pas comprendre que tout le monde se trouve en position de créer le blocage. Une fois encore, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Radio Okapi. C'est le mois de la femme. Nous nous faisons le plaisir d'accueillir dans cette émission Madame Monique Mukuna Mutombo comme invitée. Et Madame Monique, bonjour.
Bonjour Monsieur Longendo.
Alors Madame Monique, vous êtes la présidente de la plateforme RDC Nouvelle Horizon. Vous avez suivi les points de vue des uns et des autres, nos internautes, des gens qui ont réagi par rapport à ces sujets. Et nous signalons d'ailleurs qu'il y a plus de 4000 personnes ont commenté sur ces sujets. Nous vous avons présenté là juste un échantillon. Aujourd'hui, faut-il faire pression comme l'a demandé Monseigneur Outembi lorsqu'il intervenait au Conseil de sécurité? Mais de quelle nature doit-elle être cette pression, diplomatique ou politique?
Merci pour votre question, M. Lungimbo. Je voudrais d'abord, tout d'abord remercier la CENCO pour le travail louable que ces prêtres catholiques sont en train de faire. Ce travail est plus que légitime parce que l'Église catholique représente plus ou moins 40% de la population congolaise. Aucun parti politique à présent ne peut prétendre être à ce niveau-là. Donc ce qu'ils sont en train de faire nous touche parce que ils sont en train de faire le travail normalement qui n'est pas le leur, mais au nom de toute cette population congolaise qui est vraiment en train de souffrir. Donc pour moi la pression, tant que nous parlons de cette culture congolaise qui est tournée vers l'égoïsme, qui est tournée vers l'amour de soi, l'amour des postes et de l'argent, pour moi la pression devrait être plus politique que diplomatique. La pression diplomatique ne peut rien mener parce que le pays est en guerre. Nous voyons ce qui se passe au Kasaï central, ce qui se passe à l'est de la RDC. Donc tous ces politiciens, moi en parlant de politiciens, je ne parle pas de la majorité présidentielle ni de l'opposition, parce qu'à moins que nous on puisse insulter notre intelligence, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment un groupe de gens qui s'est décidé à rallonger cette période de chaos et à ne pas nous donner un calendrier électoral. Donc pour moi, une pression politique est plus que nécessaire, parce que ce pays n'appartient pas à un groupe de gens, mais ce pays appartient à tous les Congolais, où qu'ils puissent se trouver. Nous avons le droit, les politiciens ont le droit de nous donner un calendrier électoral pour garantir l'alternance dont nous avons besoin pour que notre pays puisse sortir de ce chaos que nous sommes en train de vivre.
Alors, vous parlez de la pression politique que diplomatique. Quelle doit être alors la toile de fond de cette pression politique, l'approche, si vous voulez, que la communauté internationale devra utiliser? Parce que nous avons vu la médiation, nous avons vu à un certain moment la facilitation extérieure, mais tout cela n'a pas donné le résultat escompté.
D'abord, la bonne question à se poser à ce niveau aussi, c'est cette pression contre qui? Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je ne vois pas de camp. Je vois ici un groupe de gens. Donc, ils sont de la majorité, ils sont de l'opposition. On dirait qu'ils se sont donné le mot d'ordre pour que cette période puisse perdurer. Donc, pour moi, c'est la meilleure question, c'est d'abord contre qui? Il faut d'abord localiser, il faut d'abord déterminer c'est qui les personnes clés qui jouent contre la RDC. Parce que nous les retrouvons, ils se sont répartis les postes, hein. C'est un même système, ils se retrouvent dans l'opposition, ils se retrouvent dans la majorité, ils se sont donnés comme dans une équipe de football, des postes où ils doivent jouer, il y a des défenseurs, il y a tout ce que nous voyons, mais la grande question pour moi aujourd'hui, avant même de parler de pression, c'est elle est contre qui? Parce que ça serait injuste aujourd'hui de parler seulement de la majorité présidentielle. Or, le blocage aujourd'hui est du côté de l'opposition et du côté de la majorité. Donc la plus grande démarche que nous devons faire, c'est de localiser d'abord ces Congolais qui ne le sont pas vraiment, qui sont Congolais de nom, mais qui sont là à vouloir jouer à un jeu pour prolonger encore, parce qu'ils se sont donné le mot d'ordre peut-être pour encore avoir 2 ans de chaos, et après ils vont nous parler de référendum, et après ils vont nous parler de changement de constitution, comme on voit que les Burundais sont en train d'essayer de faire. La RDC n'est pas le Burundi, donc ce jeu-là, j'insiste encore, à moins d'insulter notre intelligence, à nous tous qui sommes allés à l'école, ce jeu, c'est un groupe de gens, ils sont dans la majorité, ils sont dans l'opposition, ils ont pris en otage notre pays, et si la communauté internationale peut d'abord localiser ces gens-là, et par exemple faire un gel des avoirs, ou bien un refus des visas pour certains acteurs politiques qui se retrouvent dans n'importe quel camp, mais ici un groupe de gens, juste un groupe de gens qui est en train de prendre notre pays là, en otage.
Alors, si vous pouvez établir un peu les responsabilités, parce que vous l'avez dit, tout le monde, il y a un groupe, la majorité, l'opposition, on peut aller même, comme l'a dit un des internautes, hein, des auditeurs des auditeurs qui ont réagi sur notre page Facebook, est-ce qu'on peut à ce niveau établir un peu les responsabilités des uns et des autres par rapport à la crise actuelle?
Moi, je suis très mal placée. Je suis très, très mal placée. Mais le peuple congolais, nous avons vu la souffrance par laquelle le peuple congolais est passé, a rendu ce peuple mature. Regardez autour de vous, il y a des politiciens, je ne sais pas, majorité ou opposition, ils ont plus de 20 ans dans la politique, il n'y a aucun résultat. Toute leur légitimité, c'est nous avons fait autant d'années dans le combat. Quel combat? Quel est le combat qui ne finit jamais? Quel est le combat qui n'a jamais de résultat? Je n'ai pas envie de citer des noms parce que c'est tellement connu, c'est tellement clair. Mais le peuple congolais est en train de supporter, d'encourager ce qui est en train de se passer. Parce que les mêmes personnes qui sont en train de leur raconter des histoires, qui créent un blocage, qui créent des histoires, des chimères, des, vraiment, je ne sais pas quel groupe théâtral au monde peut jouer au même, les mêmes scènes que nous sommes en train de vivre dans la politique congolaise. Donc le peuple congolais doit ouvrir les yeux. Il n'y a personne qui doit pointer du doigt qui que ce soit. Je n'ai pas le droit de faire ça parce que moi-même je suis candidate à la présidentielle. Mais il y a, c'est tellement clair qu'il y a un jeu qui est en train de se jouer. Il y a un groupe de gens qui s'est organisé pour que cette situation puisse perdurer en air de pied.
Voilà.
Donc ça, ce n'est pas mon rôle de déterminer la responsabilité
des uns et des autres. Alors, madame, vous avez dit que vous êtes candidate à l'élection présidentielle, la prochaine élection présidentielle. Vous avez dit pour vous, vous estimez que l'idéal serait d'amorcer la pression politique que la pression diplomatique. Mais il ne revient pas à vous la responsabilité de déterminer les responsabilités des uns et des autres. Mais on sait tout de même que tout le monde est responsable de ce blocage actuel. Vous plaidez pour que les sanctions puissent aller à l'endroit ou à l'encontre de ceux de la majorité, de l'opposition, ainsi que ceux de la société civile qui seraient auteurs ou co-auteurs de ces blocages. Merci beaucoup. Madame, nous vous gardons en ligne, le temps d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs qui ont, ils se sont inscrits depuis hier pour participer à cette émission lorsque nous avons placé ces sujets sur notre page Facebook et sur les nets 081-890-6380 ou encore le 081-890-4960. Pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Une organisation internationale a plusieurs fonctions à jouer, notamment la fonction normative qui consiste à confectionner les normes, également la fonction opérationnelle, soit elle agit par l'intermédiaire des États. L'organisation peut imposer des sanctions, comme venait de le dire notre invité, la fonction des contrôles. Mais nous sommes à la fonction opérationnelle. Faut faire une pression. Madame a dit pression politique, c'est l'idéal, et non une pression diplomatique. Kevin, vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue.
Bonjour JR, merci de m'avoir accordé la parole, ce qui me permet de renouer une fois de plus avec les millions de compatriotes auditeurs de la radio Okapi après un long moment d'absence. Et j'ai dit aussi merci à toute l'équipe de Parole aux auditeurs.
Alors vous avez parlé, vous avez dans votre message posté sur notre page Facebook fait également allusion de ce que venait de dire tout à l'heure notre invité. Pression politique, oui.
Certes, certes. C'est pourquoi je vais directement pour essayer d'interpeller madame l'invitée, parce que vous venez de le dire que elle est candidate déclarée à la présidentielle et elle ne doit pas avoir peur d'établir des responsabilités en ce qui concerne les blocages sur le plan politique en RDC. Elle doit savoir, elle doit les dire clairement que c'est et la majorité et l'opposition, même la société civile, qui sont responsables de tout ce qui nous bloque. On a dit que contrairement à ce qu'elle pense, les pourparlers diplomatiques n'aboutiront jamais parce que chez nous, déjà le gouvernement et la majorité se confondent. Lorsqu'on est en train de traiter avec notre gouvernement, on traite du coup directement avec la majorité présidentielle. Voilà comment les choses se confondent et il n'y a pas moyen de se dire que je suis devant un ministre des Affaires étrangères crédible dans le sens de sa neutralité dans l'avancement de négociations politiques. Je crois que dans un État comme le nôtre, les pressions extérieures ont toujours eu une importance capitale, surtout que politiquement et économiquement, l'État congolais ne peut rien faire sans la communauté internationale. Mais cependant, moi je suis en train de me dire que ces pressions, si elles sont dirigées seulement à l'endroit du gouvernement, l'opposition politique congolaise va toujours continuer à souffrir de son obésité politique du moment. Ceci pour dire que, pour ce qui est du blocage à la mise en œuvre de l'accord, tout le monde en veut le blocage, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition. Chez nous, les choses se compliquent, puisque on ne fait pas la part des choses entre la majorité présidentielle et le gouvernement, c'est ce que j'avais dit. C'est pourquoi le gouvernement se donne les privilèges peut-être de ses terres, alors que les choses, les chances de mettre fin à la crise s'amenuisent.
Oui, mais Kevin, quand vous soutenez oui, la pression politique, à quoi consisterait cette pression politique, selon vous? Madame a évoqué tout à l'heure quelques sanctions qu'on peut donner à la...
Il y a de pression, il y a des pressions politiques, il y a des pressions économiques. Quand on parle par exemple des gels des avoirs, vous avez vu ce que ça avait fait lorsque on avait gelé les avoirs de certaines autorités publiques en RDC. Vous avez vu les résultats. On a eu même à apprécier la prestation de la police nationale congolaise après qu'il y a eu
annonce des sanctions.
Ces pressions là. Alors je voulais dire que pour ce qui est maintenant de l'opposition, alors je ne vois pas pourquoi on doit avoir peur de présenter autant de candidats au poste de Premier ministre, puisque c'est ça aussi le blocage. Pourquoi, au moment où l'accord ne s'applique pas, ne fût-ce qu'à 1%, et pendant que l'arrangement particulier n'aboutit pas, on présage déjà la renégociation de l'accord. L'accord dit par exemple que c'est l'opposition qui présente les candidats Premier ministre. Un point, un barre. Il n'y a rien à interpréter. Il ne faut pas appeler la Cour constitutionnelle pour venir encore interpréter un contrat politique entre les politiciens. C'est clair, on a dit, le Premier ministre provient de l'opposition politique. On n'a qu'à faire ça. Maintenant, la majorité présidentielle vient maintenant pour bloquer les négociations, pour dire non, il faut une liste. Alors, dans ces cadres-là aussi, je suis un peu dans les deux camps et au milieu du village pour dire que quel serait l'inconvénient pour l'opposition politique de présenter deux ou trois candidats? Il n'y a pas d'inconvénient, on veut toutefois bloquer l'affaire. Aujourd'hui, il y a un autre blocage qui naît, c'est celui du président du comité de suivi. C'est la conséquence maintenant qu'il y a lorsqu'on mise sur la personnification de la chose publique. Comment vous pouvez nous expliquer, dans une émission que tout le monde suit, un dirigeant,
membre,
qui nous dit que le poste de président du comité de suivi était réservé, tenant compte de l'esprit de la lettre, était
une
réservé
personne.
Pour le président Tshisekedi. Mm-hmm. Ça ne va pas. Dans l'accord, on doit faire le mieux que possible pourvu que ça puisse avoir au moins un caractère d'une loi, c'est-à-dire
les caractères
généraux et les caractères impersonnels. Personnel. Mais comment est-ce que vous négociez déjà en misant sur les personnalités politiques? Ça veut dire que nous n'avons pas une élite. C'est-à-dire la politique congolaise est en train de
désombrer. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup, Kevin. Voilà, je retiens une chose. Vous soutenez l'idée d'une pression politique à l'endroit de tous, parce que tous sont responsables, la majorité, tout comme l'opposition, ainsi que la société civile. Mais vous aimeriez bien que dans les jours à venir, que les choses avancent dans le sens de pouvoir respecter l'accord du 31 décembre. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir appelé les Mbandaka. Maître Omar, bonjour et bienvenue. Maître Omar, vous êtes avec nous. Maître Omar? Voilà, Maître Omar n'est pas en ligne. On va prendre Prof Bukako, qui est toujours en Mbandaka. Prof Bukako, bonjour.
Bonjour JR, bonjour aux auditeurs de la radio Okapi. JR, nous avons suivi hier la déclaration du Conseil de sécurité en ce qui concerne le blocage que nous sommes en train de connaître au sein de négociations qui se déroulent dans notre pays. En tout cas, on a bien suivi ce que le Conseil de sécurité a déclaré, mais moi personnellement, je crois qu'il faudrait que le Conseil de sécurité puisse aller au-delà même de ce qu'ils sont parvenus à déclarer. Hier, la situation est grave dans le pays, très très grave dans le pays. Et puis moi, je me pose la question, pourquoi les gens ne peuvent pas directement identifier le camp qui est en train de créer ce blocage-là. Parce que ce camp est bien connu. Je me rappelle, lorsque le vice-président de la CENCO est arrivé ici à Mbandaka, il avait tenu une conférence au niveau du cercle Bakusu. Et il n'avait pas mâché le mot pour dire que, en tout cas, il y a un camp, et surtout le camp du pouvoir qui est en train de bloquer la situation. Tout était bloqué à ce niveau. Parce que moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi l'on doit parler de la situation qui se passe au sein de l'opposition et considérer qu'il s'agit d'un
blocage. Oui, mais ben, prof Bukako,
au niveau de l'opposition, il n'y a pas de blocage. Au niveau du rassemblement, il n'y a pas de blocage. C'est vrai qu'il y a un camp qui aurait voulu ou qui veut se désolidariser des autres pour des intérêts égoïste, mais ils sont minoritaires. Et les raisons qu'ils sont en train d'évoquer, comme quoi il faudrait que l'on arrive à enterrer le Étienne Tshisekedi, mais écoutez, le pays ne doit pas s'arrêter parce que Étienne Tshisekedi est mort.
Alors professeur Bukako,
est grave, très grave.
Oui, professeur Bukako, oui, l'idéal, ça serait une pression politique, yes, ou une pression diplomatique?
Moi, personnellement, je crois que les deux valent pour que la situation puisse être débloquée au niveau de ces négociations qui se déroulent à Kinshasa. Les deux valent. Il faudrait peut-être des pressions politiques. Déjà, par exemple, des décisions que le Conseil de sécurité, que la communauté, l'Union européenne et même la communauté internationale avaient arrêté en ce qui concerne les gels des avoirs. Il y a un militaire là, un policier là, un général, dont les biens ont été gelés. Il y a eu également une série de personnes, même des ministres. Moi, je crois que si la communauté internationale peut continuer à prendre des décisions de ce genre-là, les gens auront peur et finalement, ils pourront débloquer la situation. Parce que hier, je vous dis que la vie devient intenable à tous les niveaux. Lorsque vous arrivez au niveau de nos universités, les jeunes gens ne savent à quel sens se vouer. Hier, par exemple, j'étais à l'IFM Mbandaka, parce que les frais sont fixés en dollars, mais il y a un étudiant dont les parents sont à l'intérieur qui sont parvenus à lui envoyer un peu d'argent pour payer le billet. Les parents pensaient qu'ils pouvaient envoyer ce qu'ils lui avaient envoyé avant, mais non, c'était le double de ce qu'ils devaient normalement envoyer. Et l'étudiant est pénalisé, l'étudiant est
merci.
Non, je ne suis pas là. La vie devient intenable.
Cette
discussion qui continue à se pérenniser, cette discussion qui ne s'arrête pas. Non, moi je crois qu'il faut
Il faut des pressions
extérieures, mais également des pressions politiques internes. Ça veut dire quoi? Que nous, population, nous devons nous prendre en charge.
Merci beaucoup, professeur Bokako. Nous revenons à vous, madame Monique Mukuna, présidente de la plateforme RDC Nouvel Horizon. Et vous avez suivi ces deux interventions, du reste très pertinentes. Notre auditeur Kevin, qui a insisté beaucoup plus et qui vous a rejoint dans la quasi-totalité de son intervention, dit que des pressions politiques, oui, il n'y a que ça qui peut contraindre les parties prenantes à respecter l'accord. Les pressions doivent aller non seulement à l'endroit de l'AMP, mais à toutes les parties prenantes, même la société civile, puisqu'on ne peut pas comprendre que tout le monde se trouve en position de créer du blocage autour de l'accord même quand il n'est pas question. Alors comment peut-on accepter qu'un accord qui n'a été appliqué même pas à 1% puisse connaître déjà des modifications et aussi d'interprétation. Il y a professeur Bokako, lui parle plutôt de deux pressions, la pression politique et la pression diplomatique, parce que les deux se valent. Alors, quelle est votre réaction, madame?
Ma réaction, c'est d'abord par rapport au professeur. Nous n'allons pas tomber dans ce piège-là de commencer à polémiquer, à savoir qu'est-ce qui se passe dans le rassemblement. Qu'est-ce que le peuple a à voir avec le rassemblement? Nous n'avons rien, absolument rien à voir. Moi, je suis pas de cette opposition-là, du rassemblement ou de cette opposition-là traditionnelle. Donc, aujourd'hui, il ne faut plus qu'on parle que de non, qu'est-ce qui se passe dans le rassemblement, mais nous n'avons pas besoin de comprendre ce qui se passe. Nous avons juste besoin d'un calendrier électoral. Donc, si nous devons pointer du doigt qui que ce soit, nous ne savons même plus tellement c'est opaque. Dans l'opposition, il y a des agents du gouvernement, donc de la majorité qui sont là-bas, qui jouent à un jeu. Dans le gouvernement, il y a des gens dont nous ne voulons pas entrer dans ce jeu. Moi, je ne connais pas la particularité parce qu'il y a les banques. C'est pour cela que la communauté internationale doit jouer un grand rôle. Ils sont au courant de tout ce qui se passe au niveau financier, par exemple, de savoir qui a reçu quoi, d'où. Donc c'est très facile de cibler les personnes qui sont corrompues et qui jouent à ce jeu. Donc ils se sont donné 2 ans, et ce jeu qu'ils sont en train de jouer, c'est pour atteindre les 2 ans. Et nous tous les intellectuels de la RDC, on nous prend comme des petits-enfants pour nous amener à ces conflits-là. Pendant que moi je parle, ils vont partir sortir pour dire les polémiques que nous vivons à Kim. Ils vont se regrouper pour insulter, pour diminuer et pour éviter le problème qui est crucial, c'est-à-dire un calendrier électoral.
Oui, mais madame Kevin, oui.
Regardez tous ses voisins. La RDC est en train de traîner les pieds. Jusqu'à quand allons-nous, les Congolais vont mourir? Jusqu'à quand nous allons vraiment regarder la vie à Kinshasa? On est en train de corrompre quelques groupes de gens pour avoir quand en finalité? Il faut que le Congolais maintenant réalise, parce que le problème, mon grand problème, c'est la population congolaise. Sachant tout cela, ils sont fanatiques, ils sont tribalistes. Ils réclament et puis ils vont acclamer quelqu'un juste parce que cette personne est de sa tribu. Donc c'est le Congolais qui doit maintenant étudier, regarder cette classe politique. Nous, nous nous sommes mis à l'écart exprès. Nous ne voulons pas participer à ce qui est en train de se faire comme ça contre la RDC. Le peuple congolais doit se lever. Regardez-vous. Ne choisissez plus tribu, ne choisissez plus tribalisme. Parce qu'en fin de compte, c'est vous qui manquez d'assurance sociale. Vous n'avez pas de moyens d'aller à l'hôpital. Vous n'avez pas de moyens de payer les minervales pour vos enfants. Donc, et ces gens-là, ces groupes de gens-là qui se jouent au passe-passe, celui-là, il était premier ministre. Demain, il est je ne sais qui. Celui qui est premier ministre, il était opposant il y a quelques années. Regardez dans l'opposition. Tous, ils étaient presque avec le gouvernement. Et la population est en train d'être menée comme ça. Aujourd'hui, on vous amène ici demain et vous suivez. Et puis, vous rentrez affamés dans vos maisons. Donc,
oui,
moi,
oui,
passer mon temps parce qu'il y a déjà trop de polémiques. Les politiciens congolais vont se rabattre sur les photoshops, ils vont se rabattre sur des insultes terre à terre parce qu'ils n'ont même pas de respect.
Alors, madame,
au lieu d'attaquer le vrai problème, notre problème, c'est un calendrier électoral. C'est notre droit en tant que Congolais. Nous avons besoin qu'ils se battent, qu'ils s'insultent, mais nous avons besoin le plus tôt possible d'un calendrier électoral.
Alors, je ne sais pas, madame, vous avez dit, vous êtes candidate à l'élection présidentielle, mais je crois qu'il y a Kevin qui aimerait bien, parce qu'il a dit tout à l'heure, pourquoi vous hésiterez, vous, de déterminer les responsabilités dans la situation actuelle, la responsabilité des uns et des autres?
La responsabilité, elle est très claire. J'évite d'entretenir encore les donc tout ce qu'il y a comme amalgame à Kinshasa. J'ai pas envie de jouer à ce niveau-là de politique. Il y a déjà trop de polémiques là-dedans. Tout ce que nous voyons, moi, je vois juste un résultat. C'est que la situation sociale de notre population est au niveau le plus bas de la région. Donc le niveau sécuritaire est le plus bas de la région. Tout ce que vous voulez citer, nous sommes les derniers dans la région. Pour moi, c'est ça le résultat qui compte. Pourquoi vais-je m'acharner à ces acteurs politiques qui vont se dire « Nous, nous connaissons des experts en politique » et la population va acclamer. On va donner 5 dollars, 10 dollars et les gens vont aller acclamer. Et moi, je ne vais pas me mettre... Quand on arrête un politicien qui essaie de dire la vérité, tout le monde l'oublie. Après 2 jours, on l'oublie. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie que je parle de ce qui concerne directement le peuple congolais. Les opposants sont là en train de mener les gens en bateau. Nous n'avons pas besoin du rassemblement de l'opposition. Nous n'avons pas besoin de la majorité. La RDC aujourd'hui a juste besoin d'un calendrier électoral.
Merci beaucoup. Alors madame, on va.
C'est tellement clair pour tout le monde.
Alors, on va poursuivre avec les auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Il y a ingénieur Valérie qui est à Kindu et Elie Mbandaka. Ingénieur Valérie, bonjour.
Bonjour JR, bonjour aux amis auditeurs ainsi que à madame l'invité. Nous parlons droit, je pense que nous sommes obligés de lire quand même quelques articles. Mais j'aimerais avant de poursuivre dire à madame qui vient de braver vraiment le courage d'être la première dame dans l'histoire du Congo à être candidate, que ce qui est important, ce n'est pas seulement le calendrier électoral, mais les conditions dans lesquelles nous devons aller aux élections, afin que, après la période des élections, il n'y ait plus de contestation. C'est dans cette optique que les gens doivent d'abord bien harmoniser les choses. Ok. Maintenant, j'aborde le vif de la matière. JR, nous devons savoir que la pression des conseils de sécurité, elle existe déjà. Elle existe parce que, un, nous avons obtenu la résolution 2277 avant même qu'il y ait le dialogue. Deuxièmement, dernièrement, ils ont pris, n'est-ce pas, des mesures comme quoi ils vont sanctionner ceux qui créent des retards dans des avancées démocratiques, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des pressions. Mais n'oublions pas une chose. Aujourd'hui, la première pression, elle est diplomatique, parce qu'on appelle les uns les autres, on cause avec. Même la MONUSCO a reconnu dans son point de presse hier qu'elle a toujours des contacts avec toutes les parties prenantes au dialogue. La deuxième pression, elle est politique, et la troisième, elle est juridique. Vous avez remarqué que même avant les assises du Conseil de sécurité, il y a eu quand même un début de déblocage ici. Ce n'est pas un fait du hasard. C'est parce que les parties prenantes savaient qu'il y aura quelque chose au Conseil de sécurité. On ne doit pas paraître comme étant la source du blocage, d'où il faudrait que ça avance. Mais ce qui m'impressionne, moi, c'est quoi? C'est que quand nous lisons les préambules de l'accord, Je voudrais aller rapidement avec deux paragraphes, le deuxième et le troisième. Le deuxième dit ceci. Considérer les divergences au sein de la classe politique ainsi que les risques majeurs de division de la nation. Donc c'est parce qu'il y avait risque majeur de division de la nation face à la crise politique née de l'impasse du processus électoral dont la régularité et la continuité a été interrompue. Troisième paragraphe. Prenant conscience de la nécessité de la cohésion nationale pour établir la concorde intérieure fondée sur un entendement commun du respect de la Constitution, des lois de la République et des principes démocratiques généralement acceptés. Donc, c'est-à-dire que l'accord est fondé sur le respect de la Constitution, des lois de la République et sur le respect démocratiquement et démocratique généralement accepté. C'est à ce niveau où se pose le problème. Puisque nous avons toujours été gérés par la Constitution. Aujourd'hui, nous avons l'accord. Le principe de substance affirme que tout changement suppose quelque chose qui change. Mmh. Maintenant, en droit d'ailleurs, on dit ceci, accessorium sequitur principal, pour dire que l'accessoire suit le principal. Mais la difficulté vient d'où? Il n'y a pas de difficulté au rassemblement, à vrai dire. Il y a eu une crise qui a commencé et qui a vite pris fin. Parce que, on ne cesse de le répéter, le rassemblement est une coalition de plateformes. La plateforme dynamique, c'est celle-là qui avait des problèmes. Et cette même plateforme a déjà vidé son litige et a signé...
Valérie, là, je vous coupe tout de suite parce que on sait tout de même que dans des principes généraux, quand il y a même une seule voix, concordante, c'est que la crise demeure encore.
Ok, merci. Ce n'est pas pour rien que je soulevais le principe accessoire sur le sort du principal. Mmh. Le principal, c'est quoi? Le principal, ce sont les plateformes qui ont fondé le rassemblement. Par conséquent, l'accessoire sera quoi? Sera les voix des plateformes et non des individus. Point barre. Pour autant que toutes les plateformes sont d'accord, automatiquement, on doit se référer à ceux qui ont créé le rassemblement. Ce ne sont pas les individus qui ont créé. Là, on met de côté. Maintenant, puisque le problème qui nous a bloqué, c'est celui du mode de destination du Premier ministre, le JR. L'article 78 est clair. Quand nous lisons l'alinéa premier, le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Point. On va continuer. Donc, cet article concerne une majorité parlementaire. C'est dans la majorité. Il met fin à tout ça. Deuxième paragraphe. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vie d'identité.
Un informateur.
Donc, c'est dire que le problème là, donc, que la majorité a soulevé, c'est un faux débat. On doit le dire, la majorité
voilà.
a soulevé un faux débat.
Voilà, donc pour vous, les responsables, pour vous, c'est vrai que madame, notre invitée, l'a pas dit, Kevin a mis pratiquement dans le même sac, en fait, la majorité, l'opposition, la société civile. Professeur Bokako, lui aussi, a insisté sur ça, mais vous pensez, vous responsabilisez plutôt la majorité. Mais je retiens une chose, Valérie, de ce que vous avez dit, que la pression existe déjà, au regard d'ailleurs de la résolution 2277 du Conseil de sécurité, en ce qui concerne la situation de la RDC, vous avez estimé que au moment où il y avait des sanctions à l'endroit des auteurs de retard dans le processus électoral à RDC, ou ceux qui ont perturbé, et ça a quand même donné les résultats escomptés. Et pour vous, vous estimez aussi que cette pression doit être renforcée du côté diplomatique, politique et juridique. Merci beaucoup. Élie, vous êtes en Bandaka, bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Alors Élie, je crois que vous êtes dans une maison où on vous écoute comme si vous êtes dans une caisse. Est-ce que vous pouvez peut-être vous déplacer un tout petit peu, comme ça on aura une très bonne qualité de communication?
Ok, ça va, je me suis déplacé un peu.
Voilà, allez-y, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, monsieur le journaliste, moi je m'appelle au conseil de déclaration du conseil de sécurité. Parce que saluer l'accord, ça ne rassure rien à la population. Parce que les politiques congolais, tous, comme de l'opposition et de la majorité, personne n'a les soucis de la population. Vous trouvez que du côté du pouvoir en place, on est en train de bloquer la machine en disant que non, les rassemblements doivent présenter au président de la République. Soit non, mais si autant que l'accord les précise clairement que le rassemblement doit présenter un candidat au niveau du président de la République et le président de la République nomme ce candidat-là. Mais du côté du rassemblement, vous trouvez que non, le rassemblement s'est divisé en deux ailes. Les ailes de Olenakoé et l'autre aile-là. Mais vous voyez que non, la division du rassemblement a permis au parti, au pouvoir de la place, de constater qu'ils ne sont pas en train de planter le pays.
Donc il y a un blocage quelque part. Merci, merci beaucoup Elie. Alors Madame Mukuna Mutombo, Monique, vous êtes avec nous en ligne.
Je suis avec vous.
Voilà, nous rappelons que vous intervenez en dehors du pays, vous êtes en Afrique, au Bénin si je ne me trompe pas.
Oui, je travaille en Afrique, oui.
Voilà, alors d'entrée de jeu, vous venez de suivre cette deuxième série des auditeurs. Il y a ingénieur Valérie qui a dit que bon, la pression, oui, mais il y a déjà une pression qui existe par rapport à la résolution 2277 et que la responsabilité aujourd'hui incombe à la majorité, mais il va falloir aussi renforcer la pression diplomatique et également la pression juridique. Est-ce que vous partagez cet avis?
D'abord, je voudrais rectifier quelque chose de majeur chez l'ingénieur Valérie. Quand j'ai parlé d'un calendrier électoral, quand nous avons un calendrier électoral, il y a des mesures qui vont avec, des mesures d'encadrement, des lois d'encadrement de ce calendrier électoral. Nous ne pouvons pas parler de garantir des élections s'il n'y a même pas encore un calendrier. Ça, c'est toute la loi électorale, c'est tout un système qui vient avec. Donc, nous n'allons pas commencer à discuter sur ce qui n'existe pas encore. Pour rendre les élections probables, nous avons besoin d'un calendrier. Nous ne pouvons pas parler de qu'est-ce qui va se passer après les élections. Oui, mais d'abord un calendrier, c'est ça la base de toute chose. Et nous pensions qu'avec la concertation avec l'Église catholique, ils ont fait sortir avec un calendrier électoral. Pas des discussions. Le problème de la RDC aujourd'hui, c'est le manque de pragmatisme. Il y a trop de professeurs, il y a trop d'intellectuels qui n'ont pas su transformer les études en quelque chose de pratique, d'adaptable sur le terrain. La conséquence est où? Nous avons des institutions qui ne sont plus légitimes. Voilà tout ce que les professeurs ont fait à l'école, à l'université. Beaucoup de français, beaucoup de théories. Résultat, c'est le zéro que nous avons. Pas d'institution, pas de calendrier électoral, un futur flou pour la RDC. Donc arrêtons vraiment d'entrer dans ces détails rassemblement. Parce que moi, je suis pas du rassemblement. Qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais qui font pas partie du rassemblement? Qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais qui font pas partie de la majorité? En tant que Congolais, parlons maintenant en tant que Congolais, laissons tomber ce civique. Je suis la première, et je le répète encore, à avoir proposé l'Église catholique pour essayer de trouver une solution. Mais l'idée, ce n'était pas encore que l'Église catholique donne encore le pouvoir à ces mêmes politiciens qui jouent un jeu de foot entre eux, qui se donnent des rôles, et pour que nous en arrivions encore là. Là, nous sommes où? Nous sommes nulle part, absolument nulle part. Donc, parler d'un calendrier, c'est de parler de la base, la seule chose qui puisse être concrète pour le futur de la RDC.
Alors, est-ce que, madame,
Valérie, oui. Je suis complètement d'accord pour ces pressions-là qui peuvent être diplomatiques, politiques et économiques. Mais pour moi, je parle plus de politique parce qu'il faut vraiment reconnaître la situation actuelle de la RDC qui est en guerre. Une guerre bien étudiée, bien préparée pour déstabiliser le pays. Ces gens qui sont à la tête du pays n'ont pas d'autre langage qu'un langage d'armes, langage de tuer. Quelqu'un qui fait du mal, on tue. Quelqu'un qui ne fait même pas de mal, on met en prison. Ça, c'est le langage.
Alors, madame, quelle lecture?
Ces gens-là, vous ne
oui,
parlez pas
lecture...
diplomatiquement avec eux. Ils ne peuvent rien entendre. Ces pressions-là ne vont absolument rien donner. Ils n'ont pas de loi, ils n'ont rien. Pour eux, c'est rester au pouvoir à tout prix.
Alors,
donc, il faut trouver une pression vraiment qui en vaille la peine.
Alors, madame, quelle lecture faites-vous de la déclaration faite par Monseigneur Outembi au Conseil de sécurité aujourd'hui? Est-ce que vous avez le même sentiment que certains de nos auditeurs qui estiment qu'il s'agit là d'un aveu d'impuissance ou encore déjà d'un échec de négociations directes?
En quelque part, oui, c'est vraiment plus ou moins un aveu, parce qu'ils font recours maintenant au Conseil de sécurité pour les aider, je les comprends. Hein. Donc pour eux, ils ont envie de bien faire les choses, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on se joue d'eux à ce niveau-là. Les politiques congolais sont en train de les ridiculiser. Donc je suis tout à fait d'accord que c'est vraiment presque un aveu, et nous les soutenons, nous voyons les efforts qu'ils sont en train de faire, parce que les gens avaient quand même un goût amer à souvenir de tout ce qui s'est passé à la conférence nationale souveraine, tout ce qui s'est passé avec l'Église catholique. Et ça, c'est l'occasion vraiment en or pour rétablir un peu, laver un peu l'image de cette Église par rapport à la population congolaise. Donc c'est plus ou moins un aveu. Hein. Si dans quelques jours ils ne trouvent pas quoi de solution, nous allons jouer au jeu déjà préétabli. Parce que maintenant, les gens qui n'aiment pas, les politiciens qui n'aiment pas la RDC, ceux qui sont là à la solde de l'argent et des fosses, ils parlent déjà des référendums. Il parle déjà de changement de constitution. C'est le voyoutisme politique. On vous a élu, nous avons fait confiance pour une période bien déterminée et vous voulez maintenant jouer de nous. Vous avez préparé toutes ces situations pour que le Sénat, le Parlement et toutes les institutions ne puissent pas être légitimes. Lumumba est mort pour nous établir ces bases qu'on est en train de piétiner comme ça.
Alors, donc, madame, vous avez... c'est un aveu.
Je dois en convenir.
Voilà, vous avez dit que c'est un aveu. Vous partagez pratiquement le même sentiment avec certains auditeurs. Mais il y a une date qui a déjà été avancée par la SENCO pour la signature de l'arrangement particulier. C'est la semaine prochaine. Je crois que c'est cette semaine, le samedi, le 27. Est-ce que là également, vous avez, c'est le 27 lundi, donc 27 mars. Est-ce que vous avez également le même sentiment comme certains de nos internautes que là encore, ça risque de ne pas marcher dès lors que on demande une pression et la pression peut prendre le temps que ça peut prendre. Et bon, c'était de manière précipitée d'avancer aussi cette date-là.
C'était peut-être pas de la manière précipitée, mais je vois bien depuis tout ce temps qu'on a changé de dialogue en dialogue, qu'entre-temps, peut-être qu'il va encore avoir un problème pour empêcher cela. Parce que la volonté politique n'est pas là pour que ce pays puisse finalement décoller. Hein. Ils se sont donné le mot d'ordre pour que la RDC puisse être vraiment par terre. Donc attendons voir, peut-être entre-temps, il y a vraiment un miracle qui va s'accomplir pour que les choses se passent le 27.
Merci.
Mais on n'y compte pas trop. Hein.
Merci beaucoup Madame Monique. Nous vous gardons encore en ligne pour ce dernier quart d'heure de l'émission. Le temps pour nous d'accueillir d'autres auditeurs qui nous ont rejoints. Et là nous signalons que le débat se tient également sur notre page Facebook. Merci à vous tous échanger donc avec les autres à travers le pays et aussi à l'étranger sur notre site. Maurice, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Oui, moi je salue également les auditeurs de Radio Capi qui sont branchés à l'antenne.
Alors Maurice, vous avez suivi les uns les autres, ainsi que notre invité. Aujourd'hui, vous proposez quoi qui serait comme idéal, pression politique ou pression diplomatique?
Écoutez, toutes les pressions seront le bienvenu au stade actuel des choses. Mais je voudrais noter d'abord que, avant d'attendre la pression diplomatique, parce que ce pays nous appartient à nous, Congolais, c'est-à-dire la pression doit être d'abord interne. Et nous donnons l'impression, nous, Congolais, d'attendre tout de l'extérieur. Et pourtant, nous sommes plus de 70 millions. Nous disons que la ville de Kinshasa seule peut regorger plus de 10 millions d'habitants. C'est-à-dire, il suffit seulement peut-être 500 000 ou 100 000 personnes se mobilisent aujourd'hui, ils vont faire échec, en fait, à ces plans
Maurice, quand nous voyons, quel peut être l'avantage, au fait, allons droit au but, quel doit être l'avantage d'une pression politique en face d'une pression diplomatique par rapport à notre situation? Restons scientifiques.
Non, écoutez, la pression, pourquoi nous parlons à ce stade des choses de la pression? Parce qu'il est bien établi qu'il y a une mauvaise foi du côté, en fait, du régime kabyliste qui ne veut pas s'accorder
Voilà, je crois que nous sommes déjà au niveau, je crois...
Écoutez,
Maurice, mais je crois qu'il faut quand même réfléchir par rapport à la déclaration faite par Monseigneur Outembi, qui dit qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a des avancées. Même le Conseil de sécurité l'a reconnu, il y a des avancées. Mais maintenant... sur le 95% déjà fait, il reste que 5% pour qu'on arrive à la signature de l'arrangement particulier. Êtes-vous d'accord qu'il y a déjà des avancées?
Il n'y en a aucune avancée, je dois vous dire.
Voilà, voilà, c'est un débat qui est lancé, qui est ouvert, je crois que c'est libre. Alain de Mbandaka, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Pierre, bonjour.
Voilà, Alain, là vous avez des petits soucis, on a des petits soucis avec votre ligne. Vous sortez entrecoupé, est-ce que vous pouvez changer juste votre position? Peut-être la ligne va s'améliorer, et on pourrait vous écouter de manière impeccable.
Ouais, effectivement, écoutez un peu de méditation, puisqu'il pleut abondamment ici en Bandaka.
Voilà, il pleut en Bandaka. Je crois que votre ligne a des petits problèmes. Il est temps pour nous de lire quelques messages encore pour ceux-là que nous avons pu découvrir sur notre ordinateur tout à l'heure. Jules Capepela de Bounia se demande pourquoi les conseils de sécurité se limitent seulement à reconnaître l'accord de Saint-Sylvestre sans mettre de pression sur les acteurs politiques. Timothée Rukini nous écoute à Kananga et pense que la position du Conseil de sécurité est salutaire, mais ce qui va bloquer cette position, c'est la mauvaise foi de acteurs politiques qui multiplient des prétextes dans le but de ne pas aboutir à la signature de l'arrangement particulier. Et même Mbala Kinshasa se réjouit de la décision prise par la communauté internationale. Cependant, il pense que cette communauté internationale doit multiplier des pressions sur la majorité, l'opposition ainsi que la société civile afin que l'accord soit signé. Il propose que dans la future résolution, les rôles de la MONUSCO soient clairement établis dans les processus électoraux. Alors, Madame Monique, vous êtes avec nous ?
Nous sommes là.
Alors, quelle lecture faites-vous par rapport à cette proposition de Aimé Mbala Kinshasa qui dit que dans la future résolution, que le rôle de la MONUSCO soit clairement défini ou établi dans les processus électoraux ?
Ce rôle-là, plus ou moins, est déjà établi, hein, parce que la MONUSCO, moi-même, j'ai travaillé en 2006, hein, j'étais en charge de l'enrôlement des candidats et des électeurs pour le bureau de liaison de Lubumbashi. La MONUSCO nous a beaucoup accompagnés sur le plan de sensibilisation, sur le plan de la logistique, et a joué un grand rôle dans la sécurisation même de bureaux de vote et dans de sécurisation même de la collecte des données du résultat de terrain. Donc la MONUSCO a déjà un rôle bien déterminé, mais maintenant avec la situation actuelle, peut-être renforcer ce rôle-là par d'autres mesures, surtout sécuritaires. Donc elle est vraiment, parce que nous laisser, nous les Congolais, dans cette ambiance déjà de suspicion, dans cette ambiance de juridique qui n'est pas claire, donc la MONUSCO a un très grand rôle à jouer et il faut juste renforcer ce rôle-là par des avenants en tenant en compte la situation actuelle du pays.
Alors on va écouter Sylvain qui nous a rejoint à ce niveau du débat, il est à Bounia. Sylvain, bonjour et bienvenue, la parole aux auditeurs.
Merci beaucoup, merci Gère. En fait, je voudrais d'abord marier mon idée à celle de Madame Monique, que je soutiens d'ailleurs. Je voudrais dire ici merci à la Radio Capitale. Pourquoi ? Parce que lorsque vous considérez la situation politique en RDC actuellement, je le disais la fois passée quand j'ai rencontré le bureau de la MONUSCO Ituri à Bounia, c'est que non seulement actuellement il faut laisser la gestion de l'espace politique congolais aux acteurs politiques congolais qui sont dépourvus des valeurs morales, des valeurs citoyennes, des valeurs patriotiques, il faut les contraindre, à commencer par le premier citoyen de ce pays, à ne pas siéger dans les grandes institutions des Nations Unies. Parce que regardez que l'ONU prêche les valeurs de la démocratie. Et les États qui composent l'ONU doivent démontrer un seuil élevé de la pratique de la démocratie. Où est la RDC ? Comme Mme Monique l'a dit aujourd'hui, le peuple congolais doit savoir clairement que il a été trahi par les gens qui ont pris son destin à main. Et donc, clairement, tout de suite, l'ONU doit pouvoir prendre des sanctions concrètes, n'est-ce pas ? Mettre même à l'écart l'État congolais, pour que le Congo se redresse, pour que chaque Congolais comprenne que la légèreté par laquelle il a régné pendant longtemps doit être un refait, n'est-ce pas ? Pour qu'on crée un nouveau type d'homme congolais. Et c'est là où je dis, Mme Monique a totalement raison pour autant dire que notre classe politique, c'est une pourriture. Et la population congolaise doit maintenant considérer tout simplement que nous avons besoin d'une nouvelle énergie, des gens qui doivent prendre la gestion de la cité.
Alors Sylvain, Sylvain, restons dans les sujets. Lorsque je pose la question aux uns aux autres, faut-il aujourd'hui une pression politique ? Parce que nous en sommes là. Le président de la CENCO, Monseigneur Outembi, pour ne pas les citer, a été au Conseil de sécurité, a plaidé pour que la pression continue. Ben alors, j'ai posé en même temps la question à notre invitée, Madame Monique, tout à l'heure. Est-ce qu'il s'agit là d'un aveu, déjà d'un échec des négociations directes, ou en avançant la date déjà pour la signature de l'arrangement particulier, et en même temps qu'il demande la pression, ou sollicite, plaide pour la pression aux politiques, c'est vraiment paradoxal, et ça risque déjà de mettre des gens dans une confusion.
Vous savez que, M. Gérard, la pression politique doit être assumée par qui ? Par le peuple congolais. Puisque la souveraineté appartient au peuple congolais, c'est l'article 5 de notre constitution. Deuxième chose, la pression diplomatique doit être opérée à travers les organisations dans lesquelles appartient la RDC. Puisque la RDC constitue aujourd'hui le cible des menaces internationales. C'est la question des conditions de la paix et tout ça. Donc je pense que nous avons tout à fait raison. Même la CENCO, lorsque la CENCO dit
que lundi où on va signer tout ça, non, ce sont des échappatoires.
Voilà. Voilà. Wait and see, comme l'a dit, notre invité, Madame Monique, attendons voir. C'est vrai, dans comment on appelle ça, la convergence parallèle, il y a quand même une rencontre. Je crois les mathématiciens peuvent le dire mieux que nous. Il y a toujours une rencontre à l'horizon. Voilà. Félicien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Gérard, bonjour Madame l'invitée, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Alors, je crois que Madame l'a dit, il faut quand même un avenant pour renforcer un peu le rôle de la MONUSCO, et clairement, qui dans le processus électoral, ça pourrait être quand même une de voies dans cette pression-là politique. Est-ce que vous partagez le même avis?
Oui, madame a dit beaucoup de choses très très importantes dans sa communication et nous devons prendre ça au sérieux. Moi je pense que nous ne pouvons pas continuer à demander au Conseil de sécurité des choses qu'il a déjà fait, parce que si nous voyons depuis les années 60, le Conseil de sécurité est toujours au chevet de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, la classe politique n'a jamais compris cela. Le Conseil de sécurité, l'ONU en général et la communauté internationale a toujours compté sur le développement de la République démocratique du Congo et l'émergence de la République démocratique du Congo et le développement, parce qu'ils pensent que ça peut booster le développement de toute l'Afrique. Mais malheureusement, il n'y a pas d'homme politique dans ce pays qui prennent la mesure de cette situation. Il n'y a pas une autre contribution que le Conseil de sécurité peut apporter à la crise congolaise à ce stade que de persuader la classe politique congolaise dans son ensemble afin qu'elle se hisse au-dessus des intérêts égoïstes et personnels. Nous voyons que la médiocrité a élu domicile dans la classe politique congolaise. Et nous voyons aussi comment ils sont en train de se battre pour leurs intérêts personnels. Ils ont oublié l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation. Ils ont oublié le patriotisme. Et une classe politique comme ça, toute tendance confondue, se bat pour les intérêts personnels. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? On doit mettre la pression de la communauté internationale. Et la pression au niveau du peuple congolais. On doit faire changer les choses. On ne peut pas les laisser continuer à détruire, continuer à faire souffrir tout un peuple, à prendre tout un pays en otage. Ça, c'est rien que normal. Le Conseil de sécurité doit utiliser tous les moyens à sa disposition pour faire pression afin que ce pays puisse répondre aux besoins de l'Afrique, aux besoins du peuple congolais, aux besoins de toute la communauté internationale, parce que si Dieu a mis des richesses dans ce pays, c'est pour que ce pays puisse servir d'abord le Congolais.
Voilà. Merci beaucoup, Félicien. On va terminer. Il ne reste que deux minutes avec notre invité, Madame Monique Mukuna Mutombo, présidente de la plateforme RDC Nouvel Horizon, première femme à avoir annoncé sa candidature à la magistrature suprême en RDC. Madame Mukuna Mutombo, Monique, vous êtes avec nous. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que on peut encore dire qu'il y a de l'espoir, que demain sera meilleur qu'aujourd'hui?
Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Nous avons vu des pays d'Afrique qui ont beaucoup souffert. Et mon travail en Afrique m'a donné de l'expérience de voir que ce que nous voyons, c'est peut-être pas ça. Donc la RDC a souffert, a beaucoup souffert de la dictature, de la colonisation. Mais peut-être c'est juste un processus normal pour nous afin que nous puissions finalement un jour apprécier la liberté. Donc cette liberté ne peut passer que par la conscience du peuple congolais. J'insiste encore, je n'ai rien à voir avec les politiciens. Ils ont prouvé leur niveau, ils ont prouvé ce qui se cachait derrière tout ce combat-là de longues années, de longues haleines. Mais le peuple congolais doit maintenant réaliser chaque mouvement que vous faites, chaque chose que vous faites, boycottez ces partis politiques que vous votez, même si c'est votre frère, même si ne choisissez plus tribune, ne soyez plus fanatique. Ne choisissez plus parce qu'on vous a donné à manger aujourd'hui et demain vous ne connaissez pas le lendemain. Le résultat de tous vos choix, vous vivez ça aujourd'hui. Donc si vous n'êtes pas conscient, c'est votre vie, la vie de vos enfants que vous allez continuer à hypothéquer. Donc réalisez maintenant que tout ce que vous faites, vous êtes en train de vivre. Après des années, voilà le résultat.
Merci beaucoup, madame.
Vous pouvez encore finir aujourd'hui, vous le verrez encore. Prenez-vous en charge, mettez-vous et...
Merci beaucoup. Voilà, madame Mukuna Mutombo, Monique, merci. Vous êtes présidente de la plateforme RDC Nouvel Horizon. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous rappelons que vous êtes première femme à avoir annoncé votre candidature à la magistrature suprême, déjà à 43 ans. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Jean-Claude Siala, Nico Kalambay et Martin Sebou-Jangwe. Cette émission vous a été coordonnée, présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro.